Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Nouvelle attaque des EDF la nuit dernière à Mousséa dans le territoire de Beni au nord Kivu. Bilan provisoire, au moins 10 morts. Information rapportée par la nouvelle société civile du secteur de Rwenzori. Examen national de fin d'études primaires ENAFEP 2023 en RDC. Ces épreuves des deux jours se clôturent aujourd'hui. Au sud Kivu cependant, il s'observe une baisse d'effectifs des candidats attendus à Bouchouchou et à Nyamukubi. Certains finalistes seraient morts ou disparus lors du drame survenu le 4 mai dernier à Calais, pensent les autorités éducationnelles. Et puis, le fichier électoral présenté par la centrale électorale est corrompu et provisoire. C'est en tout cas ce que pense l'opposant Adolphe Mouzito, président du parti politique Nouvel Élan. Pour lui, la CENI ne devrait donc pas convoquer le corps électoral le 25 juin prochain sur base de ce fichier. Adolphe Mouzito est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Au moins 10 personnes ont été tuées la nuit dernière dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des EDF à Mousséa, un village de la chefferie de Bachou dans le territoire de Beni. Selon la nouvelle société civile du secteur de Rwenzori qui livre l'information, ce bilan est provisoire car certaines personnes manquaient encore à l'appel ce matin. Récit des faits avec André Kitenge.
C'est aux environs de 22h heure locale que le village de Mousséa situé sur l'axe routier Kiondo-Kiavignongué dans la chefferie de Bachou a été attaqué par des assaillants assimilés aux rebelles des ADF la nuit dernière. Selon Meleki Moulala, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise du secteur des Rwenzori, au moins 9 personnes dont 4 femmes ont été tuées par ces assaillants par balles et à l'arme blanche. La même source indique que les victimes ont été extirpées de leur maison avant d'être exécutées à l'extérieur. Ce vendredi matin, plusieurs autres personnes étaient toujours portées disparues, tandis que la fouille se poursuit encore dans la région pour tenter de les retrouver, indique cet acteur de la société civile. Des biens de la population, notamment des vivres, ont été pillés également par les assaillants. Pour le moment, c'est la psychose qui règne dans la zone par crainte d'une éventuelle attaque dans la zone où la présence de ces rebelles des ADF a toujours été signalée. Nous n'avons pas pu joindre le porte-parole des opérations Sokola 1 pour obtenir la version de l'armée. André Kitenge, Beni Radio.
Restons dans le territoire de Beni. 3 jours déjà depuis que les taxis motos ne circulent pas dans la chefferie de Watalinga. Les conducteurs décrivent le délabrement avancé du tronçon routier Mbao-Kamango, mais aussi la multiplicité des taxes et barrières le long de cette route longue de 80 km. Les autorités administratives trouvent leurs revendications fondées et sollicitent l'appui du gouvernement provincial pour décanter cette situation qui paralyse déjà toutes les activités socio-économiques dans la région. Marc Marofimbo, reportage.
Au troisième jour de leur grève, les motards ne jurent que par le remplacement de l'attributeur de cet axe routier qu'ils jugent d'inefficace et sans moyens logistiques conséquents. Ils demandent aussi la baisse des taxes du péage routier. L'organisation Action pour la défense des droits de l'homme estime qu'il est urgent que les autorités interviennent vu l'importance de cet axe routier. David Moise est son coordonnateur.
Vous savez que c'est une route d'intérêt sécuritaire, d'abord. Deuxième chose, c'est une route d'intérêt économique à l'alimentation des grandes agglomérations telles que Wita et Beni Butembo. Mais aussi la liaison qui existe entre le Congo et l'Ouganda à partir de nos billets.
Contacté, le chef de la chefferie de Watalinga parle d'une revendication fondée des motards. Il en appelle aux autorités provinciales pour aider à débloquer cette situation qui, selon lui, paralyse l'économie locale. Mwami Pascal Sambili Bamukoka.
Ils ont coopéré déjà avec nous. On a échangé, on s'est mis autour d'une table, mais il revient maintenant dans l'hiérarchie, donc à la province, de voir aussi comment appuyer par un autre attributaire qui est compétent. Parce que la route ici ne nécessite pas de travaux manuels. Quelqu'un qui a une pioche, là où il faut quand même des tracteurs ou des bennes, c'est compliqué.
Le Mami Pascal Sambili Bamukoka indique par ailleurs que des discussions sont en cours avec ces motards pour voir comment relancer les activités après la baisse des taxes du péage routier. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Autre nouvelle, l'Allemagne condamne la présence des troupes rwandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo. C'est la ministre allemande adjointe aux affaires étrangères, Madame Kecha Keul, qui l'a fait savoir hier dans la soirée au sortir de l'audience lui accordée par le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. Pour la ministre allemande, son pays espère bien soutenir tous les efforts de médiation de toutes les parties pour que le peuple congolais puisse un jour vivre en paix. Le point avec Jacques-Yves Moulima.
Il faut respecter la souveraineté des pays, il faut respecter les frontières. C'est en ces termes que la ministre allemande adjointe aux affaires étrangères a exprimé sa désapprobation aux activités des troupes rwandaises sur le sol congolais. Madame Kejakeul.
Il faut respecter la souveraineté des pays, il faut respecter les frontières, soit les frontières en Europe, mais aussi les frontières en Afrique. On est tous dans le même bateau. Si on veut vivre en paix, il faut défendre les valeurs de la charte de l'Union africaine, aussi la charte des Nations Unies qui implique qu'on respecte les frontières et comme ça alors aussi on a condamné l'influence de Rwanda sur le territoire congolais.
Par ailleurs, la diplomate allemande a fait savoir qu'ils sont profondément focalisés sur le respect des accords précédemment signés et acceptés par tous, notamment ceux de Luanda et de Nairobi. En plus, Kedja Keul s'est félicité des discussions qu'elle a eues avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qu'elle a trouvé totalement disposé à trouver des solutions idoines aux problèmes qui rongent l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans maintenant.
Entre-temps, la RDC et la Cour pénale internationale CPI renforcent leur niveau de collaboration à travers un protocole d'accord signé jeudi 1er juin à Kinshasa par la ministre congolaise en charge de la justice et le procureur de la Cour pénale internationale. À travers cet acte échangé en présence du chef de l'État congolais, la RDC, à en croire Félix-Antoine Tshisekedi, exprime sa volonté de coopérer avec le bureau de la CPI de manière active et dynamique vers des idéaux de justice et de paix. Billy Van Lutumba a assisté à cette cérémonie. Il nous en donne d'autres détails.
Dans la suite de cette signature, Karim Khan reconnaît d'emblée que le pouvoir de Kinshasa accomplit déjà beaucoup d'actions dans le sens de dire la justice en faveur des victimes, quand bien même il y en a aussi qui continuent encore à attendre.
Dans le cas, il faut faire les choses autrement, avoir une approche beaucoup plus holistique, plus générale, pour faire en sorte qu'on ne restera pas là encore 20 ans après à parler de ces crimes.
Félix Tshisekedi, comme dans d'autres de ses adresses, interpelle aussi le procureur sur la question liée à l'exercice et la protection des peuples et de la souveraineté des États.
Il est important que les États membres puissent réaffirmer leur adhésion aux valeurs de la Cour, entendu notamment à travers la mise en place d'une institution judiciaire répressive, dotée non seulement du pouvoir de défier les qualités et les statuts des auteurs, co-auteurs et complices des crimes, mais aussi d'une compétence générale couvrant en principe les différents secteurs des rapports humains au niveau national et international.
Alors que le chef de l'État termine son adresse, les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre et des hauts officiers de l'armée et de la police présents dans la salle acquiescent cette interpellation. Et ainsi prend fin le séjour de Karim Khan en RDC.
Province du Tanganyika, les membres du Conseil provincial de sécurité appellent les communautés Twa et Bantu du territoire de Moba à fumer le calumet de la paix. Déclaration faite à la presse hier à Kalemi par le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika. Il était à la tête d'une mission sécuritaire qui s'est rendue dernièrement à Moba. On écoute le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika, Dieudonné Kasaka, au micro de Paulin Munanga.
Il y a eu des atrocités dans la chefferie de Kansavala, dans les groupements Mwindi et Mpala, où les Twa et Bantu se sont comportés comme des gens qu'on ne saura pas qualifier de tous les noms. Et il y a eu des victimes, mais pas des morts. Voilà pourquoi nous avons préféré se rendre sur le terrain et proposer quelques pistes de solutions. J'étais parti avec les représentants des Twa dans le gouvernement, qui est aussi collègue ministre, où il fallait qu'ils puissent aussi avoir un mot à dire à ses frères et sœurs qui vivent dans le territoire des morts. Il y a eu même des flèches que les Twa et les Bantu nous ont remis pour montrer la fin des atrocités. Au moins, ils ont accepté de se mettre ensemble, de cohabiter. Il y a même quelques-uns qui ont préféré d'abord commencer même à cultiver pour eux-mêmes les champs que de cultiver pour les Bantu. Et parce que souvent, nous connaissons bien les pygmées, vivent des chasses et de la cueillette. Il y a ceux-là qui ont proposé que le gouvernement puisse leur venir en aide avec les houes, les machettes qu'on sort pour la culture. Et voilà pourquoi nous avons dit, bon, ça va, nous prenons toutes les recommandations et c'est à nous maintenant, comme gouvernement, de prendre nos responsabilités.
Je vous l'ai dit dans les titres, Sud Kivu, effectif à la baisse des élèves de 6e année primaire attendus dans les centres de passation de l'ENAFEP, examen national de fin d'études primaires à Bouchouchou et à Nyamukubi dans le territoire de Calais. Les autorités de la province éducationnelle Sud Kivu 1 attribuent cette situation au fait que certains enfants seraient morts ou disparus dans les éboulements survenus dans ces deux entités le 4 mai dernier. À Bouchouchou, 22% n'ont pas répondu à l'appel et à Nyamukubi, 10% d'absents. Jean Kassami pour les détails.
Sur 277 élèves qui étaient attendus au centre d'examen de Kanyuni à Bushushu, 31 ne se sont pas présentés, ce qui donne un taux de participation de 79,9% seulement. Au centre de passation de Nyamukubi, l'on a enregistré 55 absences sur 231 élèves inscrits. À peu près un quart d'enfants dont on ignore jusque-là quel a été leur sort. Le ministre provincial de l'EPST au Sud Kivu, Mubalama David.
Au fait, ce sont des écoles qui ont été endommagés. Nos services ont déplacé leur centre ailleurs. Et là, ils ont été déplacés. Ils ont bien passé les NAFEP comme tout le monde. Leurs centres ont été fusionnés avec les autres centres qui n'ont pas été touchés.
Si les NAFEP se déroulent sans difficulté pour les sinistrés de Bushushu et Nyamukubi, bénéficiaires de la gratuité de l'enseignement, leurs aînés du secondaire qui préparent l'examen d'État sont confrontés au problème de non-payement des frais de scolarité. Le ministre de Titel au Sud Kivu sollicite une prise en charge de l'exécutif provincial en faveur de 2711 élèves sinistrés de Bushushu et Nyamukubi. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Au Maniema, dans le cadre du projet d'assistance humanitaire aux ménages sinistrés, victimes des inondations dans la ville de Kindu, 4 tonnes de médicaments ont été remis aux deux bureaux centraux des deux zones de santé. Il s'agit de la zone de santé de Kindu et celle d'Alungouli. C'est un don de l'Association des femmes pour la promotion et le développement endogène, financé par Start Network WD. Plus de détails avec Florence Kiza.
Ces lots importants de médicaments est constitué notamment des antibiotiques et des antipalidins. Les médecins des deux zones de santé affirment que ces dons arrivent à point nommé. Docteur Alain Chabani.
En voyant les lots de médicaments que AFPD vient de nous offrir, nous disons que ça peut soulager tant soit peu cette population sinistrée, démunie. Nous, comme les responsables des zones de santé, nous rassurons les partenaires de pouvoir faire un bon usage par rapport à cela et nous verrons à une gestion très orthodoxe de ces médicaments.
Les chefs de projet des AFPD demandent à ces dernier d'utiliser ces médicaments uniquement au profit des victimes des inondations. Alphonse Kabala.
Chers collaborateurs, chers partenaires, ces médicaments que nous venons de vous donner aujourd'hui, c'est juste pour que vous puissiez prendre en charge gratuitement les victimes, les vulnérables de ces inondations. Il ne faut pas vraiment les faire payer. Quand ils arrivent dans vos structures, recevez-les en bon père de famille et gérez très bien ces médicaments. Et continuons toujours à remercier la division des actions humanitaires qui nous accompagne dans la mise en œuvre de ces projets. Merci pour tout.
Cette remise a eu lieu en présence du chef de division des actions humanitaires, des autorités politico-administratives et de la société civile. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Kasaï Oriental, l'entreprise égyptienne Samkret, qui était chargée de construire et moderniser la route nationale numéro 1, poursuit les travaux au point kilométrique 10, axe Mbujimayi-Kananga. Selon nos sources sur place, l'entreprise égyptienne continue donc les travaux malgré sa délocalisation vers la route Mbujimayi-Mpiana-Mutombo par le ministre d'État et ministre des Travaux publics et infrastructures. En effet, après la réception de la correspondance d'Alexis Guissaro la semaine dernière, le gouvernement provincial du Kasaï Oriental avait annoncé la délocalisation de l'entreprise Samkret vers la route Mpiana-Mutombo à la suite du retard enregistré dans l'exécution de ses travaux. Les jeunes du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi exigent la libération de Salomon Idi Kalonda, conseiller spécial de leur président, arrêté à Kinshasa il y a près d'une semaine. Ils ont fait une déclaration hier à Lubumbashi au siège de leur parti où il y a eu des échauffourées entre ces jeunes et la police. Cette dernière les accuse d'avoir troublé l'ordre public en caillassant les véhicules qui passaient devant le siège de leur parti politique. Allégation qu'ils rejettent, indiquant par contre qu'ils ont été attaqués par la police pendant qu'ils tenaient paisiblement leur réunion. Jean Gandou nous relate les faits.
Ces jeunes indiquent qu'ils ont suivi avec indignation ce qu'ils qualifient d'enlèvement de Salomon Idi Kalonda par des militaires lourdement armés. Ils dénoncent aussi ce qu'ils qualifient de dérive du pouvoir à l'endroit de l'opposition qui, selon eux, ont pour objectif le musellement de l'opposition ou veulent tout simplement susciter la peur et la panique dans le chef des candidats déclarés ou potentiels aux prochaines échéances électorales. Pour ces jeunes, le pouvoir multiplie les manœuvres pour restreindre l'exercice des droits fondamentaux des opposants. Ils citent entre autres ordre, la répression violente des manifestations, l'interdiction de circuler librement sur le territoire national et les intimidations couronnées par des arrestations qu'ils présentent comme arbitraires. Ainsi, ils en appellent à la responsabilité du chef de l'État, symbole de l'unité nationale et garant des droits fondamentaux des Congolais, pour que l'exercice des droits acquis des citoyens consacrés par la Constitution soit respecté. Notons que des échauffourées ont éclaté entre les jeunes des Ensembles pour la République et les policiers. Les deux parties se rejettent la responsabilité. On compte des blessés de part et d'autre. Entre-temps, quelques jeunes ont été interpellés par la police. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale. Les États-Unis ont imposé hier des sanctions économiques et des restrictions de visa contre les acteurs qui entretiennent la violence au Soudan. Celle-ci vise en particulier à tarir les sources de financement de l'armée et des paramilitaires. Le mandat d'arrêt visant l'ex-premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida a été levé par le tribunal militaire de Ouagadougou, a appris hier l'AFP auprès de l'avocat de Yacouba et de son parti. Ceci ouvre la voie à son éventuel retour au Burkina Faso après 7 ans d'exil au Canada.
L'invité.
Le fichier électoral présenté par la Commission électorale nationale indépendante est corrompu et provisoire. C'est en tout cas ce que pense l'opposant Adolphe Mouzito, président du parti politique Nouvel Élan. Selon lui, la CENI ne devrait donc pas convoquer le corps électoral le 25 juin en cours sur base de ce fichier. Adolphe Mouzito s'entretient à ce sujet avec Paul Matendo Mayamba.
Monsieur Adolphe Mouzito, bonjour.
Bonjour.
Le fichier électoral corrompu et provisoire, sur base de quoi vous le dites ?
Non, mais vous savez que la CENI a dit qu'elle demandait un sacrifice à l'échelle nationale pour que les provinces qui n'ont pas eu d'enrôlement ou du moins qui n'ont pas été entièrement enrôlées bénéficient de la solidarité des autres provinces. Ce qui veut dire que les autres provinces, dans leur propre texte, ont dû voir leur quota, plutôt nombre de sièges calculés sur la base du quotient de 87 000 plutôt, ont vu leur quota, leur nombre de sièges réduit pour contenter le Nord-Kivu et le Maïndombe. Maintenant, puisqu'il est programmé qu'on puisse finalement enrôler les moments venus les deux provinces, cela veut dire qu'on aura un chiffre additionnel lié aux électeurs de ces moments-là et qui va être imputé au total d'aujourd'hui qui est de 43 941 000. Et par conséquent, si les chiffres des électeurs changent à la hausse et qu'on l'applique aux 500 sièges au niveau national, c'est que le quotient aussi sera revu à la hausse. Et par conséquent, le nombre de sièges va changer. Et la répartition de sièges va changer à travers certaines provinces ou certaines circonscriptions électorales. Et par conséquent, on sera devant un autre fichier électoral qui naîtra des prochains enlèvements qui sont programmés. Ce qui veut dire que les fichiers actuels, la répartition qui en découle, actuels, les quotients aussi actuels sont provisoires. Donc en fait, ça veut dire que la CENI ne devait pas convoquer les partis politiques ou les corps électoraux le 25 juin prochain pour déposer les candidatures dans le cadre des circonscriptions actuelles qui ne sont pas encore définitives, dont les, si vous voulez, les nombres des sièges ne sont pas encore définitifs. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on a programmé un autre enrôlement et donc on a programmé une autre liste, un autre fichier électoral, un autre quotient électoral, mais aussi une nouvelle répartition des sièges.
Qui pour corriger ça ?
Ben, qui pour corriger, c'est eux de constater qu'ils se sont trompés, qu'ils doivent corriger pour faire un fichier qui soit définitif. Ça signifie qu'ils doivent faire l'enrôlement et qu'on ait les chiffres complets qui feront que les trois circonscriptions, c'est-à-dire Kouamout, Massissi et Rouchou, participent et que le nombre d'enrôlés de l'autre côté soit imputé au total général, qu'on fasse une répartition de sièges qui soit définitive et qu'on invite alors aux gens d'aller soumissionner ou on invite des partis politiques d'aller présenter leur liste électorale de manière définitive.
Au cas contraire, Nouvel Élan ?
Non, au cas contraire, ce qu'ils font est faux et il faut leur demander de corriger.
Alors, il y a un problème de financement qui se pose. Pensez-vous que les élections se tiennent dans les délais ?
Le gouvernement avait programmé dans le cadrage budgétaire, ils ont prévu de réaliser 1,5 milliard au mois d'avril, qui est un mois fiscal. Mais ils n'ont réalisé que près de un tiers, c'est-à-dire près de 500 millions ou 600 millions. Donc, ils ont un trou de près d'1 milliard. Alors, je ne vois pas comment ils vont faire pour financer les élections pour lesquelles il faut 500 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Ça, c'est le premier problème. C'est lui, un problème budgétaire. Ensuite, le problème des trésoreries. La CENI a besoin de 600 millions d'abord pour appuyer ses alliés vis-à-vis du personnel, frais de fonctionnement, salaire ou primes, mais aussi acheter des équipements sensibles qui doivent être achetés longtemps avant les élections parce qu'il y a un temps pour les acheter. Commander, il y a un temps pour rapatrier et distribuer à travers le pays. Ces temps-là, il faut prévenir en achetant dès maintenant, de manière à ce qu'on soit dans le délai. Là-dessus, je doute fort que le gouvernement décaisse dès maintenant ou dans les 2 ou 3 mois qui arrivent, et une fois les gros montants nécessaires pour ces équipements qui, par définition, coûtent cher. Et donc, là aussi, je les doute fort de la capacité du gouvernement à respecter le délai, compte tenu de cette contrainte financière.
Et jusque-là, vous êtes en train de faire une opposition des propositions, ce qui n'achante pas certains Quinois qui voir Moussa tout diminuer face à Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Denis Mukwege et le reste qui sont vraiment...
Et pourquoi? Parce que tu penses que la contestation, c'est ça l'objectif d'un opposant? Non. Le problème, c'est qu'il y a une pauvreté politique, intellectuelle, idéologique de la classe politique. Les gens de la majorité veulent aller au pouvoir, ils ne disent pas quel est leur bilan, ils ne disent pas au peuple non plus quel est le projet. Les projets, ils les font sur base de quel diagnostic, en tirant des leçons de quel bilan, parce qu'ils ne parlent ni de l'un ni de l'autre. L'opposition aussi, nous ne devons pas nous contenter de protester, nous contenter de rejeter, sans argument, ni proposition. Donc moi, je ne m'identifie pas par rapport à l'anti, comme dans le passé, l'anti-Kabila, l'anti-Tshisekedi, je m'identifie par rapport à mon propre projet.
Merci. Merci beaucoup.
L'opposant Adolphe Mouzito, président du parti politique Nouvel Élan, répondait aux questions de Paul Matendo Mayamba. C'est la fin de ce journal, supervisé et coordonné par Alain Rongmouchinj, Pierre Diassino à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.